Frères et sœurs, amis, j'aimerais m'arrêter, j'allais dire une fois de plus, sur une fête que la liturgie a commémorée durant cette semaine, qui est celle du 24 juin, qui est la solennité de la nativité de Saint Jean le Baptiste. J'ai une grande affection pour ce saint, car je crois que sommeille au fond de chacun nos cœurs un peu justement de ce grand saint. Saint Jean le Baptiste, dont vous le savez, le Christ a dit que c'était le plus grand des enfants des hommes. Alors, vous savez que l'Église considère la naissance de Saint Jean comme particulièrement sacrée, ce qui est vrai, et on ne trouve aucun des saints qui nous ont précédés, dont nous célébrions solennellement la naissance. En fait, dans la liturgie, nous célébrons que celle de Jean et celle du Christ. J'allais dire que c'est presque normal, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Saint Jean le Baptiste a préparé les voies du Seigneur et le Seigneur a emboîté le pas à Saint Jean-Baptiste qui le précédait, tout simplement. Eh bien, tout cela n'est pas sans raison ni sans motif. Même si ces mystères merveilleux ne nous paraissent pas très clairs ou très évidents, eh bien justement, cela mérite de s'y arrêter et d'aller en profondeur quant à la signification de cette fête liturgique de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Alors je m'inspirerai, puisque quand l'Église commémore de tels mystères sacrés, eh bien, il faut toujours rester humble. Bon, je ne suis pas un chef-d'œuvre d'humilité, loin de là. Ce serait hautement présomptueux de ma part, mais j'essaye de faire des efforts dans ce sens. Pourquoi ? Parce que de grands saints ont écrit sur cette célébration de la nativité de Saint Jean le Baptiste, et il me revient à l'esprit une très belle homélie d'Origène, et plus proche de nous, si je puis dire, de Saint Augustin, que j'aime si souvent à rappeler et à citer à notre mémoire. Alors, je m'inspirerai de l'homélie de Saint Augustin, qui, avec ses contraires, ses contrastes, ses oppositions, eh bien, tente de forger et d'aiguiser notre intelligence pour que notre foi en soit plus nourrie et peut-être, avec la grâce de Dieu, plus illuminée. Jean le Baptiste va naître d'une vieille femme stérile et le Christ d'une toute très belle et très jeune femme, la Vierge Marie. Dans ce contraste, saint Augustin veut nous rappeler tout simplement que Jean le Baptiste est du côté de l'Ancienne Alliance, tout à fait la fin de l'Ancienne Alliance, et que le Christ est à l'aurore de la Nouvelle Alliance. Cette naissance de Jean le Baptiste, vous le savez, a rencontré l'incrédulité de son père, Zacharie, qui, pour cela, en devient muet. Marie, au contraire, est à l'opposé de l'incrédulité. Elle croit fermement à celle du Christ et elle va le concevoir dans et par la foi. Alors, si nous avons un peu la force de scruter les replis d'un si grand mystère, nous dit saint Augustin, eh bien, accueillons dans notre cœur ce qui me semble être important maintenant de nous redire les uns les autres. Alors nous savons que saint Jean le Baptiste va clore la grande lignée des prophètes de l'Ancienne Alliance et va être, comme le dit saint Augustin, à la frontière entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous choisissez les termes qui vous conviennent le mieux. Et Jean, en apparaissant comme une frontière placée entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, cela est attesté par le Seigneur lui-même qui nous dit « La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean ». Donc, saint Jean le Baptiste apparaît comme un personnage, entre guillemets, de l'Antiquité, si on peut dire, et le héros, H-E-R-A-U-T, de la nouveauté, c'est-à-dire de la Nouvelle Alliance. Alors, parce qu'il représente l'Antiquité, eh bien, saint Jean le Baptiste va naître de vieillard, nous le savons, nous rapporte les Écritures. Et le Christ, parce qu'il représente la nouveauté en opposition à saint Jean le Baptiste, eh bien, il se révèle prophète dans les entrailles de sa mère. N'oublions jamais cet épisode de Marie qui, en hâte, se met en route vers sa cousine Élisabeth et cette rencontre mystérieuse et tellement belle de ces deux enfants dans le sein de leur mère respective et qui vont tressailler de joie et d'allégresse dans cette rencontre mystérieuse, comme cachée dans le sein réciproque de chacune de leurs mères. Et le Christ va déjà investir, si je puis dire, saint Jean le Baptiste dans le sein de Marie, lorsque celle-ci s'approchera de sa cousine Élisabeth, eh bien, Jean le Baptiste va reconnaître le Sauveur parce qu'il va bondir de joie dans le sein de sa mère. On peut dire que déjà, mystérieusement, mais réellement, Jean le Baptiste reçoit là l'investiture, si je puis dire, de sa mission. Il est désigné par le Sauveur, Jésus-Christ, avant même d'être né. Et c'est en cela qu'il apparaît déjà comme le précurseur du Christ avant que celui-ci puisse le voir. Et c'est ça, me semble, qui est très important. Alors ces choses-là sont peut-être mystérieuses, mais elles sont divines au vraiment très profond sens du terme. Et puis va arriver la naissance de Jean le Baptiste, qui va recevoir son nom, et là, son père va retrouver la parole. Alors, saint Augustin pose une question qui est très intéressante. Il va poser la question suivante au sujet de la perte de la parole de Zacharie, puisque Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de saint Jean, le précurseur du Seigneur, et sa naissance va lui rendre la parole. Et donc, saint Augustin se dit, que signifie le silence de Zacharie, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, ce silence, tout simplement, va devenir une sorte de signature, dans la parole recouvrée de Zacharie, eh bien tout simplement sa parole lui est rendue à la naissance de Jean, et saint Augustin y voit quelque chose de très beau et de très mystérieux peut-être pour nous. Il voit une correspondance entre la parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean le Baptiste à l'épisode du voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Si Jean s'était annoncé lui-même, eh bien la bouche de Zacharie ne se serait pas ouverte. La parole de Zacharie lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix. VOIX. Alors, ce rappel du symbole du voile qui se déchire, ce qui me semble intéressant sur le plan théologique, ce n'est pas tellement que le grand voile se coupe en deux, laissant tomber un morceau d'un côté et de l'autre, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui tombe de ce voile, mais c'est la déchirure. C'est ça qui me semble très beau. À savoir que la déchirure va ouvrir un espace, va ouvrir une brèche, sans doute très minime, mais va ouvrir une brèche dans laquelle, justement, va s'engouffrer celui qui est la voix, VOIX, à savoir saint Jean. Et cette voix va devenir, par Jésus-Christ, une parole. Vous voyez, c'est ça qui me semble très beau, c'est que ce voile se déchire tout d'un coup. Et il se déchire pourquoi ? Au moment où le Christ rend son âme au Seigneur. Et rendant son âme au Seigneur, il va créer, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien justement, une nouvelle voie, VOIE, qui va être celle de l'attente de sa résurrection. Parce que Jean le Baptiste, s'il prépare la voie du Seigneur, eh bien lui aussi, par son martyre, va s'introduire dans cette déchirure, dans cette brèche, pour faire corps, d'une part avec la mort du Christ, mais aussi participer, puisqu'il a préparé les voies du Seigneur, participer mystérieusement et spirituellement à la résurrection du Christ. Et saint Augustin, de conclure son homélie en disant que la voie VOX, c'est Jean, tandis que le Seigneur Jésus-Christ est la parole. Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voie pour un temps, qui est celui que Jean le Baptiste va passer parmi nous sur cette terre. Et le Christ, c'est le Verbe au commencement, c'est le Verbe éternel. Et je pense que c'est là la symbolique de la déchirure. C'est-à-dire que cette déchirure crée une brèche dans laquelle le Verbe, avec un V majuscule, s'introduit pour s'acheminer dans le repos du tombeau vers la résurrection. Amen.